Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Chad Chouinard et Tania Leduc, on parle ensemble de la contribution de la paire aidante sur le retour à la vie active. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, le syndrome du savant acquis. Notre collaboratrice propose sa chronique, Catherine Stassin va nous parler de quand le psychique devient physique, tout ça à Folie douce. On commence en chanson avec la chanson Cowboy Gangster Politician de Goldie Boutillier. Bienvenue chez nous.
Écoutez Folie douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mes invités, Chad Chouinard. Bonjour Chad et bienvenue à une nouvelle fois à l'émission.
Bonjour Yvan.
Bonjour et je reçois aussi Tania Leduc. Bonjour Tania.
Bonjour.
Première fois pour toi à l'émission Folie douce, mais bienvenue dans notre studio.
Merci.
On va parler ensemble de la père aidance et de plein d'autres sujets. Chad, tu étais un père aidant à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. C'est une petite variante qui a été rajoutée, là, la SQS qu'on connaît depuis longtemps.
Oui, en fait, ça inclut toutes les autres psychoses aussi, que ce soit dans le trouble bipolaire, il peut y avoir la psychose. Donc, on inclut aussi, on offre des services, pas juste au niveau des personnes qui ont des problématiques de schizophrénie, mais aussi à des psychoses apparentées.
Ça, et tes pères aidants, donc, puis on va l'expliquer encore une fois, tu sais, je pense que la pères aidants, c'est très important, autant famille que pères aidants tout court. Et dans ton cas, Tania, tu es chargée de projet et consultante en communication, tu as plusieurs chapeaux, tu es un peu un électron libre que tu me disais avant d'entrer en onde. Mm-hmm. Alors, Chad, pourrais-tu nous expliquer d'abord peut-être ton parcours, j'aimerais ça qu'on mette la table puis qu'on parlera évidemment de tout ce qui est alentour de ça, là.
Ben moi j'ai eu des enjeux de santé mentale, ça fait plusieurs années que je vis avec ça, depuis l'âge de 22 ans.
Ouais.
Et puis ça fait depuis 2013 que je suis père aidant. Donc j'ai de l'expérience, j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé dans une équipe CIM, j'ai travaillé aussi au centre de jour L'Échelon pour la revue Mentalité.
Ouais.
Et puis j'ai eu l'opportunité, en fait on m'a sollicité à aller travailler pour la Société québécoise de la schizophrénie. Parce que le rôle de père aidant était comme plus défini à la Société québécoise de la schizophrénie, ça me permettait plus de faire mon travail de père aidant. Tandis que quand j'étais au centre de jour L'Échelon, j'étais davantage rédacteur en chef.
Ouais, ouais.
Donc maintenant, je fais plus de tâches connexes à la père aidance. Puis ça, je trouve ça très gratifiant.
Et tu crois en ça, évidemment, parce que la père aidance, on le rappelle, des gens qui ont déjà éprouvé certaines problématiques de santé mentale qui peuvent à leur tour aider d'autres personnes.
Exactement.
Qui ont les mêmes problématiques, par
exemple. Moi, je me suis fait aider. J'ai eu des problèmes de consommation aussi.
Ouais.
Je me suis fait aider. J'ai fait des thérapies, puis je me suis fait aider par des groupes d'entraide. Par la suite, quand j'ai commencé mon rétablissement santé mentale, j'ai fait des groupes d'entraide aussi, des genres de groupes, des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, entre autres dans le groupe Reprendre pouvoir à l'époque. Donc, c'est ça. Et puis, mon parcours a fait en sorte que maintenant, moi, j'aurais aimé avoir un accompagnement de père aidance à l'époque, mais ça n'existait pas.
Oui, c'est assez récent quand même. On parle de ça depuis quelques années, mais ça fait pas si longtemps,
2006,
la père
aidance. 2006, en fin de compte, au Québec.
C'est quand même nouveau.
C'est quand même assez nouveau.
La SQS a embauché son premier père aidant, Simon Lompré, en 2011.
Ouais.
Puis je pense que c'était le deuxième père aidant à Montréal.
Oui, puis des gens payés, ça fait pas si longtemps. C'est devenu comme ça fait partie maintenant du rétablissement de plusieurs personnes. Ça a une importance d'avoir des pères aidants actifs dans plusieurs milieux.
Il y a un savoir expérientiel qui n'est pas comparable au savoir à d'autres. C'est complémentaire.
C'est complémentaire, effectivement. C'est ça. Dans ton cas, donc, Tania, on dit tantôt chargée de projet et consultante en communication, tu aides la SQS, mais quel est ton parcours un peu? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale et à t'impliquer?
La SQS m'a donné ma première chance en communication. En fait, en 2010, j'ai été embauchée comme conseillère aux communications et d'Imestre. Puis, je suis restée jusqu'en 2013. Ensuite, je suis allée travailler au gouvernement provincial comme conseillère stratégique en communication. Mais avec les années, j'ai vraiment eu envie de revenir à quelque chose qui faisait sens pour moi, là. Où est-ce que je sentais que j'avais une utilité puis que je pouvais prêter mes mots puis mes connaissances pour des causes, une cause à laquelle je croyais. Puis la schizophrénie, les troubles de santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui me parle, puis je pense avoir acquis pas mal d'expertise là-dessus. Puis donc, je prête mes services et ma plume à plusieurs organismes montréalais.
C'est ça, le défi un peu, c'est de communiquer à la population d'abord. Là. Je pense que il y a des gens qui connaissent un peu ça parce que dans leur entourage, ça, c'est peut-être moins ce monde-là qu'on veut, entre guillemets, informer. Là. Mm. Mais c'est sûr que la population, il y a un gros travail à faire depuis des années, mais
absolument.
Encore aujourd'hui. Là.
Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont bons en communication, mais qui ne connaissent pas nécessairement la santé mentale.
C'est ça.
Il y en a d'autres qui connaissent la santé mentale, mais qui c'est plus difficile d'avoir les compétences en communication. Les organismes en communautaire n'ont pas toujours les moyens d'avoir quelqu'un spécialisé en communication.
Ouais.
Donc, des fois, ça donne un petit coup de main d'avoir quelqu'un qui...
Ça a été un manque longtemps, mais c'est de plus en plus, je pense, les messages se raffinent, les gens sont de plus en plus présents. Puis avec les réseaux sociaux, veut pas, ça a aidé beaucoup d'organisations, tu sais, parce que l'accès aux médias, ça n'a pas toujours été facile, là. Tu sais, c'était un peu une chasse gardée de plein de gens, mais aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut, avec un bon message puis un bon emballage, peut
Puis il y a le record, le réseau des organismes communautaires en santé mentale de Montréal qui accompagne aussi ses membres dans les communications cette année, oui.
C'est ça. Chad, je ne sais pas si tu veux continuer là-dessus, mais tu sais, je pense qu'on en a parlé tantôt, la paire aidance, c'est super important, puis la contribution de la paire aidance peut aider beaucoup de personnes à la vie active, finalement, parce que c'est souvent ça qui est le nerf de la guerre, là, tu sais, les gens qui sentent qu'ils ont un travail ou une occupation ou un engagement dans la société, sont plus heureux, ils ont une meilleure santé mentale. Tu sais, je pense qu'ils se réalisent mieux. Pourrais-tu élaborer un peu plus, justement, sur ça?
En étant père aidant, en fait, on est un modèle d'identification, on est une source d'espoir, en fin de compte. On a passé par ce chemin-là de se réactiver, de retourner sur le marché de l'emploi ou de trouver une occupation, parce que c'est pas juste l'activation, c'est pas juste l'emploi, le rétablissement passe pas juste par l'emploi, ça passe aussi par l'occupationnel, le bénévolat, tout ça, mais dans le fond, c'est de trouver quelque chose qui est un projet de vie, en fait.
Un sens à sa vie,
exactement.
C'est un peu ça.
Oui,
hein,
d'ailleurs, le rétablissement, c'est pas que de retrouver une place, une famille, un emploi à temps plein, puis une maison, etc. Le rétablissement, c'est d'avoir une vie satisfaisante selon ce qu'on a envie de faire, selon son... Donc, en fait, c'est de trouver le projet qui rend notre vie satisfaisante.
Ouais. C'est reprendre sa place dans la société, enfin, la pleine citoyenneté. Ouais. Là, c'est un peu ça, de trouver sa place. Puis je pense que la part des pères aidants, moi, le constat que je fais en tant que père aidant, je vois beaucoup les difficultés que les gens ont à se rétablir puis à s'activer dû à un paquet de situations. Ça peut être dû à la médication, ça peut être dû aux effets secondaires, aux symptômes négatifs de la maladie. Ça peut être dû à plein de facteurs. Mais je pense que ce qu'on a développé des ateliers, en fin de compte. Maintenant, on constate, parce qu'on travaille en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale à Montréal, puis on va sur les unités, on fait des visites d'accompagnement, puis on fait des cafés-causeries, puis on voit qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, ça permet pas aux gens de s'activer, de trouver un sens à la...
En milieu psychiatrique comme tel.
Et quand ils rentrent à la maison aussi, c'est difficile de...
Voilà, le suivi, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de filet.
Souvent, mais c'est ça, c'est parce que c'est la dimension médicale qui est prise en considération. Puis tout le psychosocial, il est un peu laissé laissé de côté.
Ouais.
Fait que comme par aidant, le constat que j'ai eu, qu'on a fait... On s'impliquer dans ce sens-là, c'est important parce que ça va permettre d'aider les gens à trouver un sens à leur rétablissement puis à se positionner dans leur démarche.
Oui, dans leur cheminement.
Dans leur cheminement, oui.
À la SQS, déjà en 2010, on avait produit une brochure qui s'appelait « Le pouvoir social des employeurs » parce qu'on savait déjà que la réactivation puis se réinsérer dans les mailles de la société, ça pouvait être bénéfique pour le rétablissement. Mais à cette époque-là, on avait seulement un père aidant. On pouvait pas... On avait accès le message pour les employeurs, pour les sensibiliser à embaucher des personnes différentes.
Et ça, c'est encore un défi, là.
C'est encore un défi, mais on progresse. Mais on progresse quand même. Il y a une ouverture.
Dans nos ateliers, en fin de compte, qu'on a mis sur pied, moi puis Simon Lompré, en fait, le premier parrain de la SQS, on laisse place, on fait découvrir aussi les ressources en employabilité qui ne sont pas beaucoup connues, comme accessible, l'arrimage, tout ça. Donc, on les fait venir à l'Institut pour que la clientèle puisse en entendre parler, puisse utiliser leurs services, tout ça. On est comme un peu avant, on est là avant les ressources, les conseillers en emploi.
Oui. Puis quand on dit mal connu, en fait, c'est les personnes, quand ils tombent en psychose ou qu'ils sont hospitalisés, ils ne connaissent pas les ressources qui sont spécialisées en employabilité pour les personnes comme elles. Donc, en fait, ils ont une reconnaissance, mais les personnes qui sont touchées directement, elles ne les connaissent pas nécessairement. Donc, puis avec l'accompagnement d'un père aidant, nous, on se dit que les pères aidants sont vraiment bien placés pour faire le pont avec ces ressources-là, puis accompagner les personnes qui peuvent être très éloignées ou moins éloignées, mais qui ne sont pas nécessairement encore prêtes à embarquer directement. Mais
Donc, auprès des employeurs, est-ce qu'on essaie de vendre, entre guillemets, là, l'expression d'avoir justement une paire aidance qui va aider les gens à se réintégrer dans le marché du travail?
C'est pas notre rôle. C'est pas tout à fait ça. On avait cette idée-là aussi, mais ça, c'est plus les organismes
en employabilité
qui
comme l'arrimage, etc.
Il y en a certains qui ont des paires aidants, effectivement. Mais nous, on prend la clientèle comme avant.
Ouais.
Pour dire, peut-être que tu as besoin de revoir ton hygiène de vie ou de voir c'est quoi tes projets de vie avant d'aller approcher un organisme qui est pour l'emploi. Peut-être que tu serais plus à l'aise d'essayer par du bénévolat ou un stage d'abord ou peut-être juste de discuter avec des pères aidants.
Ouais.
Avant de...
Et en général, la pair aidance, est-ce que ça, en général, je dirais, est-ce que ça a comme une date? De début, de fin. À un moment donné, si la personne dit, moi, je pense que je suis bien, puis j'y vais, puis j'ai
pas. C'est selon le besoin de la personne. Ouais. En fait, là, la personne qui s'implique dans nos ateliers, puis qui elle a un projet de vie qu'elle commence à réaliser ou qu'elle met en place, puis ça fonctionne bien, mais c'est sûr que, on essaie d'avoir un roulement de personnes, en fait, là, pour que les personnes qui. L'objectif, c'est qu'ils restent le moins longtemps dans le groupe. Pour qu'il y ait plus rapidement dans la communauté.
C'est ça.
Aller chercher les services.
Le sentir d'attaque,
puis tout ça. Puis d'essayer des choses, là.
Oui.
C'est essai-erreur, le rétablissement. Ouais.
Vie, c'est ça aussi, dans le fond. C'est juste d'avoir la confiance, tu sais, c'est ça. Parce que j'imagine, comme tu disais, Chad, plus tôt dans ta vie, tu disais, j'aurais aimé ça avoir cette espèce de coup de pouce-là.
Ouais.
Qui aimerait peut-être, tu sais, ça aurait peut-être changé un peu, ça aurait accéléré peut-être ton rétablissement à l'époque, tu sais.
Avoir eu des gens que, tu sais, parce que moi, j'ai été stimulé par certains modèles, comme Luc Vigneault, Nathalie Lagueux, tout ça, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des témoignages, qui ont fait des conférences, tout ça. Ça me stimuler à vouloir faire ce métier-là.
Ouais.
Mais à part ça, directement, comme nous, on fait, j'ai pas eu de pair aidant qui m'accompagnait puis qui me guidait, en fait, là, plus individuellement ou de groupe.
Ouais.
Ben là, ça permet... on voit le besoin, puis on voit que les gens, ça les aide, puis ça leur met confiance, comme... On parlait, dernier atelier, on parlait de l'estime de soi, comment c'est important.
Ouais.
Comment c'est important de travailler sur la confiance, tout ça. C'est la base, en fin de compte, là, pour le rétablissement.
Il reste peu de temps, il reste moins qu'une minute. Tu peux peut-être rajouter quelque chose, Tania, mais on pourra donner aussi des coordonnées.
Là. Oui, en fait, je voulais dire d'abord que ce projet-là, il est financé par grâce au soutien de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Puis qu'on s'est adjoint une équipe de recherche pour pouvoir recueillir des données sur ce qu'on croit être une approche favorable vers l'employabilité, qui est donc
ça va donner des résultats, puis peut-être des bonnes façons de faire, là, des méthodes.
Donc ça, c'est Société Inclusive qui nous soutient dans le projet de recherche avec la chercheuse Geneviève Sauvé, Dr Abdelbaki, puis Dr Ayer.
En terminant, est-ce qu'on peut mentionner les coordonnées, la meilleure façon peut-être d'en savoir plus, puis peut-être de s'impliquer?
Oui.
Vous êtes en recrutement
on est en recrutement continu pour les participants. Donc les personnes, si vous connaissez des gens qui souhaitent se réactiver, vous pouvez les référer à nos pères aidants. Le numéro de téléphone 514-251-4125, extension 1. Sinon, le site web, c'est schizophrénie.qc.ca. Puis,
en cherchant SQS aussi, je pense qu'on trompe. Des fois, le mot n'est pas facile à épeler,
la schizophrénie. Effectivement. Puis on a notre campagne de financement en ce moment, c'est Soutenir, c'est pas du délire.
Ouais.
Si vous voulez soutenir ces activités-là de pair aidant et puis le soutien psychosocial qu'on offre aux proches, allez sur notre site.
Merci beaucoup à vous deux. Merci, Tania Leduc, et merci, Charles Chouinard. Donc, bonne continuation, puis à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
les rires et la tristesse. Cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux, ma main dans tes cheveux.
Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le moment pour le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, le syndrome du savant acquis.
Exactement, le savant acquis. C'est quoi un savant acquis? Ben, écoute, tu en as probablement déjà entendu parler, puis plusieurs de nos auditeurs aussi. Tu sais, c'est les gens qui racontent qu'ils ont reçu un coup sur la tête,
ouais,
assez important souvent, puis suite à ça, ils se sont mis à développer ou avoir toutes sortes de talents qu'ils ne connaissaient pas ou auxquels ils n'avaient jamais touché.
Ah, OK.
Mais c'est très rare et c'est pas reconnu par la médecine officielle encore. Mais j'ai décidé de prendre cet article-là qui s'appelle « Le passionnant destin de Derek Amato ». Et j'ai pris ça sur le site féminébio.com, le syndrome, oui, du savant acquis, écrit par une dame du nom de Héloïse Lebrun, qui est chef de projet édito à Féminé Bio, justement. Alors, cette madame Lebrun nous dit, au réveil d'un long sommeil suite à une chute, l'Américain Derek Amato découvre qu'il a le syndrome du savant acquis. Sa vie va changer du tout au tout lorsqu'elle découvre qu'il peut jouer de tous les instruments de musique comme un professionnel.
Et il savait rien avant, là.
Non, wow. Tu vas voir. Alors, aussi appelé le savantisme, le syndrome du savant n'est pas un diagnostic médicalement reconnu. Selon le psychiatre américain Darold Treffert, ce syndrome touche en majorité les personnes ayant un trouble du développement tel que l'autisme. Il se manifeste lorsqu'un individu possède des domaines de compétences, de capacités ou d'excellence qui contrastent avec les limitations de la personne. Le docteur Treffert ajoute que tous les autistes n'ont pas le syndrome du savant et toutes les personnes souffrant du syndrome du savant ne sont pas autistes. D'autres chercheurs déclarent que les traits autistiques et les habiletés du savant peuvent être liés ou ont contesté certaines des premières conclusions sur le syndrome du savant, jugeant qu'il s'agissait de oui-dire non corroboré par un examen minutieux indépendant. Il faut dire que c'est assez extraordinaire aussi. Tu sais, ça sort du commun.
Il ne doit pas y avoir tant de cas.
Il y en a donc, très, très, très peu.
Comment on peut documenter ça? Puis, tu sais, oui. Il faut que ce soit quand même sur un certain nombre de personnes.
Oui, mais ça l'est quand même documenté,
ah,
tu
oui,
vas voir.
Quand même.
Alors, selon M. Treffert, un point commun que partagent quasiment tous les « savants », entre guillemets, est une mémoire prodigieuse d'un type spécial. Une mémoire qu'il décrit comme très profonde, mais extrêmement étroite. Étroite dans le sens qu'ils sont capables de se souvenir, mais qu'il leur est difficile de mettre leur souvenir en pratique. Madame Héloïse Lebrun nous dit « Le syndrome du savant est mal compris. Aucune théorie cognitive largement admise n'explique cette combinaison de talent et de déficience. Le syndrome du savant est 6 fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme et cette différence ne s'explique pas entièrement par une plus forte proportion d'hommes chez les autistes. Ceci a amené à suggérer que ce syndrome et les lésions cérébrales s'avèrent congénitales. Le lien avec les fonctions langagières est aussi étudié. Derek est l'un de ces personnages entiers et incroyablement humains. Pendant notre entretien, il me parle d'une voix douce et tranquille et prend soin de s'assurer que chaque phrase est bien comprise. Sa passion pour la musique, son envie de partager et sa foi en les capacités humaines sont contagieuses. On lui a demandé « Comment votre don est-il apparu? » Alors Derek Amato répond « Depuis mon plus jeune âge, j'aime les sports de compétition, ce qui m'a valu un certain nombre de commotions cérébrales sans conséquence jusqu'à mes 39 ans. Un jour d'octobre 2006, alors que j'étais chez moi avec des proches, je fis une mauvaise chute dans la piscine et perdis connaissance. » Après un court séjour à l'hôpital, je fus renvoyé chez moi après une série de tests médicaux qui détectèrent à peine une légère surdité. Épuisé, je dormis pendant 4 jours, puis je me réveillai en pleine forme. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'étais maintenant atteint du syndrome du savant acquis et de ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est un phénomène neurologique non pathologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Par exemple, la synesthésie dite graphème couleur, qui représentait 65% des synesthésies, fait que les lettres de l'alphabet ou des nombres sont perçues comme étant colorées. Dans la synesthésie dite synesthésie numérique, les nombres sont tous et systématiquement associés avec des positions dans l'espace. Dans d'autres types de synesthésie, la musique, d'autres sons ou les nombres, les jours de la semaine et les mois de l'année peuvent être perçus colorés. Il y a même une forme particulière ou une disposition spatiale particulière. En 2004, l'Association américaine de synesthésie dénombrait 152 formes de synesthésie différentes. Alors, je vais m'arrêter ici. J'allais me donner un coup sur la tête.
Ah oui, puis revenir plus savant.
Encore meilleur.
Dans le segment Espresso à la longue plus tard. Merci, Pierre.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les.
C'est avec bonheur que j'accueille encore une fois notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Ce n'est pas la première fois et pas la dernière, je l'espère.
J'espère aussi.
C'est une belle chronique aujourd'hui. Le titre « Quand le psychique devient physique ».
Oui, c'est toute une phrase. Hein?
On dit souvent que le psychique et le physique, ça fait partie d'un tout, de la santé de l'être humain. Mais quand le psychique devient physique, ça m'intrigue.
Oui, tout à fait. J'ai trouvé cette phrase parce que je me suis dit, qui n'a pas entendu déjà depuis tout petit, mais ça doit être psychosomatique ou bien c'est psychosomatique ou quoi.
Ouais.
Ou de manière un peu plus élaborée, on peut dire, oh mon Dieu, tu somatises.
Ou c'est dans ta tête. Là.
C'est dans ta tête, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit ça?
Ouais.
Et la somatisation, c'est vraiment une expression d'une douleur psychique, mais c'est une vraie douleur psychique qui s'exprime de manière physique. D'accord? Donc, on s'entend que cette souffrance existe.
Ouais.
Je prends l'exemple tout simple d'un enfant qui n'a peut-être pas assez d'attention, etc. Et là, c'est totalement inconscient. Mm-hmm. Je parle d'un exemple totalement inconscient. Et l'enfant va attraper... de l'urticaire, des plaques rouges. Et puis, bon, à ce moment-là, on fait attention à lui, on va peut-être l'emmener chez le médecin, on va voir si ça disparaît, etc. Puis, paf, quand on arrive chez le médecin, ça disparaît. L'enfant a son attention.
Donc, c'était comme
sans
une,
doute.
Une réaction, il y avait quelque chose.
Il y a quelque chose.
Quelque chose qui dérangeait, je ne sais pas, qui le frustrait.
Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais là, je vous parle d'un cas vraiment où c'est un urticaire qui a une origine psychosomatique.
Ouais.
D'accord? Et c'est vrai que, comme adultes, les gens qui ont des troubles psychosomatiques, ça peut vraiment troubler, perturber la vie de la personne et de toute la famille et des amis autour.
Bien
okay
sûr.
Donc, on va essayer un peu de comprendre c'est quoi ces troubles psychosomatiques et c'est quoi, en fait, la somatisation. Ça, c'est le terme un petit peu plus technique, la somatisation. Et on va voir qu'il y a des états psychologiques chez les adultes et les enfants qui favorisent les troubles psychosomatiques. Et là, on parle de troubles tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur de manière générale, et également des antécédents traumatiques pendant l'enfance, que ce soit un décès, que ce soit un divorce, que ce soit une maladie sévère chez quelqu'un de la famille. Et là, ça recoupe ces éléments où, dans l'éducation, il n'y a pas eu formulation ou du deuil ou de la peine ou de la maladie, tout simplement. Donc, en fait, l'éducation faisait en sorte qu'on n'exprime pas ces douleurs-là et qu'on les mette un petit peu sous le tapis.
Ouais.
On va dire ça comme ça.
Moi, je dis souvent, tu sais, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, d'une certaine façon.
Oui,
donc, à quelque part, souvent, il y a une réaction, puis ça ressort physiquement parce que ça a été imprimé quelque part. Là.
Okay,
alors, la communication est bien importante, toujours. Là. Comme tu dis, même d'expliquer à un enfant, à un jeune, qu'est-ce qui se passe, des fois, ça va juste enlever un peu le poids sur ses épaules.
Qu'il ose s'exprimer aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'école?
Ouais. Dans des mots simples, puis dans une discussion simple,
voilà,
là, ça prend pas
grand-chose.
Ça peut
déjà l'aider. Donc, on va essayer de favoriser l'expression de quelle que soit l'émotion qu'on ressent, qu'un enfant ressent, qu'il soit fâché, malheureux, Dieu sait quelle émotion. Évidemment, chez un adulte aussi, on va favoriser ça, mais je parle de ce qui pourrait donner plus tard des troubles chez l'adulte. Donc, c'est important chez l'enfant de laisser et d'encourager l'expression de ses émotions. Et en fait, ces troubles psychosomatiques, comment ils se présentent?
Ouais.
Ils peuvent être très variés.
Ça peut arriver comme... Tu sais, ça peut prendre du temps avant
Ça peut prendre du temps.
De se présenter.
Vraiment, il n'y a pas trop de règles par rapport à ça. Ça peut être très varié et multiple chez les adultes. Ce qui compte, pour qu'on appelle vraiment troubles psychosomatiques, c'est que c'est une certaine durée et que ça perdure dans cette durée. Sinon, on ne parle pas de troubles psychosomatiques. Ça peut être un incident où il y a eu ce type de phénomène. Mais là, on veut vraiment que cela dure. Enfin, on veut vraiment... ça doit durer dans le temps pour qu'il y ait un diagnostic.
Pour le nommer comme ça. Ouais,
identifié de cette manière, en effet. Et c'est sûr que le trouble physique, on le ressent, mais c'est surtout le mal-être qui s'exprime physiquement. On s'entend que le mal-être d'origine ou le problème d'origine est un problème d'origine psychologique. Alors même si ça s'imprime, comme tu dis, c'est un terme qui explique bien, je trouve, par de l'urticaire, tout simplement, ou par un nez qui saigne. Il y a des enfants qui ont des fois ça comme phénomène. Ça reste que ça vient d'un trouble psychologique, donc de quelque chose qui n'a pas été formulé. Et... il faut aussi que ce soit quand même relativement important et que, comme j'ai dit, ça perdure, mais que ce soit important parce que sinon, ça ne va pas imprimer sur le corps cette douleur. Hein. Ça ne sera pas suffisant. Alors, de manière générale, on va dire de manière générale que le patient n'est pas conscient. Donc, il s'agit ici d'inconscient. On parle de quelqu'un qui, ça peut être avoir mal au ventre ou ça peut être vomir par anxiété parce qu'on a une entrevue, quelque chose comme ça.
Ça arrive, ouais, c'est ça.
Ou quelque chose, hein, on va un enterrement qui nous remue et on ne sait pas très bien exprimer. Ben, des fois, on ne va pas digérer les affaires, tout simplement.
On sait qu'on va rencontrer des gens qui vont nous stresser, puis là, ça nous met à l'envers, puis c'est ça.
Tout à fait.
Ouais.
Et l'expression en français, elle dit bien les choses, ne pas digérer.
Ouais.
Ne pas digérer, ça reste coincé quelque part.
Oui, exactement.
Ça peut s'imprimer, donc, quelque part, sur le corps, le physique, donc.
Ouais.
Et Alors, je parlais, il y a des allergies aussi qui peuvent être dues à du psychosomatique, hein, donc des enfants ou des adultes qui vont développer une allergie de manière soudaine, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas. Ça peut être quand même physique, je veux dire, mais ça peut être aussi d'origine psychosomatique. Pareil pour les troubles de la digestion, donc douleurs, nausées, diarrhées, les gens qui ressentent aussi des oppressions dans la poitrine. Je ne parle pas ici d'une crise de panique, hein, mais les gens qui ont mal à la poitrine, qui ont mal à la gorge de manière répétée,
ouais.
et ça ne s'explique pas
ça
par une maladie
pas, c'est ça.
Physique diagnostiquée.
Et
vous voyez ce que je veux dire?
Combien de fois ça arrive que les gens vont voir un médecin, le médecin commence à leur poser des questions, puis juste en disant au médecin, un médecin généraliste, ils vont dire un peu ce qui les stresse, ça. Les symptômes vont comme tranquillement disparaître, ça va les rassurer, puis tu sais, c'est souvent ça, là. Ça
c'est prend comme quelqu'un... une mini-thérapie.
Oui, ça prend quelqu'un qui les écoute. C'est, là, c'est le médecin qui les écoute, mais c'est souvent ça qu'on dit. Même
c'est ça,
mon
mais
médecin,
il faut que le médecin pose les bonnes questions.
Oui,
c'est
ça. Des questions
que
simples.
Soyez à l'aise.
Qu'est-ce qui vous stresse ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des situations qui... C'est ça, parce que ça...
Parce qu'en 10 minutes, un quart d'heure, vous n'avez pas toujours le temps de vous détendre et de faire confiance au premier médecin qui vous pose ces questions.
C'est ça.
Donc,
c'est sûr.
Il y a aussi quelque chose d'assez courant chez les personnes adultes, en tout cas j'en entends beaucoup parler autour de moi, c'est l'insomnie. Donc ça peut être aussi révélateur de troubles psychosomatiques. Donc on va aller mettre le mal-être dans un trouble physique qui est le fait de ne pas savoir où s'endormir ou bien quand on se réveille au milieu de la nuit, ne pas se rendormir et ça arrive plusieurs fois dans la nuit.
Ça
vous fatigue, ça vous rend irritable. Ça vous rend non fonctionnel. Donc, c'est un trouble qui va perdurer, qui va vous causer des dégâts physiques aussi.
Ben oui, ça ne va pas aider au bien-être de la journée qui suit. Là.
Non.
Ça, on
n'a
pas bien dormi, c'est certain qu'on n'est pas en forme.
Non.
Hein.
Et alors, qu'est-ce que c'est le traitement, en fait?
Hein? Ouais.
Le traitement, on parle ici, il faut absolument, si c'est diagnostiqué, qu'il y ait un accompagnement d'un professionnel de la santé.
Ouais.
Donc, il y aura, en fonction de la gravité, une demande pour qu'il y ait psychothérapie, pour que la personne prenne conscience de son cheminement et, tiens, dans le fond, c'est quoi l'émotion qu'elle n'a pas vécue ou qu'elle ne vit pas et qui se met en trouble psychosomatique.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est une thérapie. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que son inconscient veut peut-être lui dire.
Puis
donc,
tout le monde
il faut faire attention.
Tout le monde ne croit pas en ça. Il faut
non,
être sensibilisé.
Non, tout le monde ne croit pas
en ça,
c'est vrai.
Il faut être sensibilisé à ce qu'on... Oui. C'est un tout, le psychique,
oui,
le physique.
C'est vrai.
Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à...
Alors, en plus de la thérapie, il y a évidemment les antidépresseurs pour les patients uniquement conscients
mm-hmm.
de la pathologie. Donc, les gens qui se prennent en main, qui se disent « Ok, c'est ça que j'ai ». Parce que je n'ai pas vécu ma colère ou parce que je n'ai pas vécu autre chose. OK, mais maintenant, il faut m'accompagner. Donc, il y a on vous donne des médicaments.
Oui, simplement.
Voilà. Et évidemment, ce qu'il y a entre guillemets de plus simple, c'est la relaxation, c'est-à-dire des prises de respiration, mais pas uniquement quand vous sentez que les symptômes arrivent, mais essayez tout au long de votre journée,
de prendre des petits moments.
De
là.
Prendre des moments, justement, tout à fait, Yvan, où vous allez vous dire, OK, moi, c'est important pour moi. Qu'est-ce que j'ai vécu ce matin? Qu'est-ce que j'ai vécu ce midi? Surtout si vous sentez qu'il y a des choses qui vous ont ou fâché ou attristé. Prendre quelques minutes et se dire, OK, je me relaxe parce que j'étais au bureau, dans le fond, je n'ai pas pu vraiment vivre ces émotions.
Ouais.
Maintenant, je vais les vivre.
Et comme tu disais dans d'autres chroniques, même peut-être aller faire une petite balade dans un parc à proximité.
Excellent, les petites
écouter
balades
les
de
oiseaux,
l'heure du midi.
Tu sais, la nature, en 15 minutes, ça peut faire un bien immense.
Exact. Et
si on a
de
un
se
parc
dire,
à côté.
Voilà, là, je m'autorise à ou pleurer 5 minutes
ou
à me fâcher
un...
avec moi-même
ou
avec quelqu'un
ça.
D'autre.
Ouais.
Et une dernière chose que je voudrais dire avec ça, c'est qu'en fait, il s'avère que 20% des gens qui vont voir le médecin, en fait, ont des symptômes somatiques. C'est-à-dire qu'ils ont des troubles. 20%, c'est quand même beaucoup.
Ils sont pas à la base physique de base. Là, c'est
ils,
ça.
Sont psychosomatiques,
ils sont psychosomatiques.
Ils sont d'origine de mal-être, même si les symptômes deviennent physiques.
C'est pas difficile à croire, même 20%, j'ai l'impression que C'est même plus que ça, à mon avis.
Peut-être,
mais
oui.
J'ai l'impression que moi, je crois beaucoup qu'il y a beaucoup de problématiques.
Oui, je pense qu'au bout X années, en effet, il y a des maladies qui peuvent en une fois se transformer en physique. Et on ne parle plus de psychosomatique à ce moment-là, mais enfin, ben, ça, c'est...
Mais l'origine a
ça
peut-être
pourrait
été
pour une autre chronique, oui, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Peut-être l'origine a été psychosomatique, mais avec les années, c'est devenu physique. Là, mais ouais.
Ah oui, tout à fait. De toute façon, le mal dont vous souffrez physique, vous le sentez véritablement physiquement.
Oui, oui, c'est
ça. Même si il vient du psyché.
C'est ça.
D'accord?
C'est juste qu'une transposition dans le physique.
C'est ça, mais il n'y a pas une origine, une réaction anaphylactique comme pour un choc et vous avez une piqûre de guêpe, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est ça.
Ça vient du mal-être, votre réaction allergique.
Ça se transforme en... C'est ça.
Voilà. Alors, une autre chose, c'est que les femmes sont plus touchées, étonnamment. Là, je n'étais pas au courant de ça. Là, je me suis documentée.
Oui.
Et aussi... Pour terminer, en fait, l'Organisation mondiale de la santé voudrait transformer ce terme trop psychosomatique en un diagnostic pour étudier le syndrome de stress physique.
Ah.
Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un véritable stress physique ressenti par les personnes qui le vivent parce qu'elles attrapent la diarrhée, parce qu'elles vomissent, parce qu'elles ont la poitrine oppressée ou Dieu sait quoi. Donc, je veux dire, je trouve ça intéressant de voir que les mentalités évoluent et qu'ils ont envie d'appeler ça syndrome de stress physique.
Ouais.
Voilà. Mais ouais. Alors, où je vous parle, là, je ne peux pas vous dire que ça a été fait. Hein. C'est en discussion.
Oui. Merci beaucoup, Catherine. On va mettre les références, comme à notre habitude, dans notre site web antenne.qc.ca. Dans la section mentionnée à Folie douce, merci beaucoup pour cette chronique où on démystifie un peu le psychique et le physique. Merci Catherine et à la prochaine.
Merci Yvan.
Au revoir.
Au revoir, bye bye.
Bye.
Minuit moins quart et même si on dort debout. On s'arrête le temps d'être nous. Et quand tu te rends et tu mets ton âme à nu, en un regard, je me perds comme dans les vues. Tout semble passer si vite qu'on en perd le fil. Compte-moi tes rêves qu'ensemble on les imagine. Il nous reste encore jusqu'à la fin du film. Oh, donne-moi tout de toi avant que l'aube ne dévoile le jour. Qu'on en perd le fil. Compte-moi tes rêves qu'ensemble on les imagine. Il nous reste encore jusqu'à la fin du film. Oh, donne-moi tout de toi avant que l'aube ne dévoile.
Ici Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la Cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce.
De retour au micro à l'espresso allongé avec ton sujet, Pierre, que tu as débuté plus tôt, le syndrome du savant acquis.
Oui, ça, c'est ces gens, il y en a très peu de ces gens-là, ouais, qui subissent un coup sur la tête, assez violent habituellement, et qui se mettent à développer des talents incroyables. Souvent, ça peut être pour la musique, mais ça peut être aussi pour les mathématiques aussi. J'ai déjà vu des documentaires là-dessus. Il y a des gens comme ça qui étaient souvent autistes, pas toujours, mais souvent, ouais, autistes, puis qui se mettent à élaborer, ouais, des formules mathématiques ou chimiques.
Du jour au lendemain, qu'il n'y avait pas nécessairement cette chose-là avant de...
C'est quasiment
même,
incroyable.
C'est quand même dur à croire. Hein.
Oui, alors le titre de l'article, au complet, c'est « Il devient musicien professionnel après une commotion ». Le passionnant destin de Derek Amato, écrit par Mme Héloïse Lebrun, qui est chef de projet édito sur le site féminin Bio. Alors, elle nous parle de cet Américain. Alors, on a demandé à Derek Amato comment il s'est aperçu de son talent pour le piano, par exemple. Alors, il a dit que c'était en rendant visite à un ami. C'était en 2006. Quelques jours plus tard, après sa sortie de l'hôpital, après son choc crânien, qu'il fut soudain attiré par son piano. Il dit alors que je n'avais jamais touché un piano de ma vie, je jouais 7 heures d'affilée. Sans... c'est quelque chose.
Non, c'est
sans pouvoir m'arrêter. Et il dit, et ce n'est pas tout. En plus du piano, j'ai aussi reçu un don pour la guitare, la basse et les percussions. Et ce, dans plusieurs styles musicaux allant du classique au rock.
Sans avoir fait tout le travail, tu sais que ça prête toi-même, t'es musicien, Pierre, tu, ouais, sais que ça prend des années.
Mais on pourrait l'engager pour nous faire des...
Ben oui, pour nous faire des jingles.
Ben oui, il joue de tout, tu sais, on sauverait de l'argent.
Un orchestre, ben ouais, ça.
Oui.
Non, mais c'est vrai, ça prend du travail d'habitude, puis tout à coup, oui, la personne, c'est quand même incroyable.
Ah, oui. Alors, concrètement, comment se traduit chez lui ce phénomène? Eh bien, Derek répond que « Je compose spontanément de la musique 24 heures sur 24 sans pouvoir m'interrompre. Les carrés de couleurs que je vois tourner autour de ma tête correspondent à des notes, mais cela défile si vite que je ne peux capturer qu'une partie de cette mélodie. Je pourrais jouer sans interruption, mais évidemment, ce n'est pas possible. Je vis une vie normale avec ma famille et mes occupations, mais il y a toujours un moment où la pression est trop forte et je sais que je dois aller jouer. Il faut que la musique s'exprime. Je pourrais rajouter en plus, il faut que le gars dorme un peu.
Un
aussi.
Peu, c'est ça. C'est ça, il faut qu'il se repose.
Alors, Madame Héloïse Lebrun nous dit, de nombreuses études scientifiques sont en cours à mon sujet. En fait, c'est M. Amato qui parle.
Ouais.
Il dit, pour essayer de comprendre comment toutes ces capacités ont été activées, les mesurer et les situer dans le cerveau et dans l'ADN. C'est passionnant, dit-il. Je n'ai pas fait de recherche généalogique pour savoir si j'avais des ancêtres musiciens, mais en tout cas, pas dans des générations proches. On lui a ensuite demandé comment expliquez-vous votre lien en ce cas-là à la musique. Derek nous dit « Si la musique est un langage, c'est celui de l'âme. Pour moi, la musique est l'opportunité de créer un lien entre chacun, mais aussi le moyen de se connecter avec notre moi profond. La musique est un des outils qui nous permet d'aller explorer à l'intérieur de soi. Mon projet est de faire le tour du monde pour dénicher toutes les perles rares et de co-créer une pièce musicale. » Il nous dit « J'aime créer et diriger. » Pour vous donner un exemple, j'ai composé pour l'Orchestre de Philadelphie une symphonie en une semaine pour chacun des musiciens. Ils se sont entraînés et j'ai été leur chef d'orchestre, sans même avoir besoin de répéter.
Quand même, c'est vraiment spécial.
C'est incroyable. Tout est déjà prêt dans ma tête, dit-il, et je vois simultanément toutes les partitions. Ce n'est pas toujours facile de collaborer avec d'autres personnes, car je suis très exigeant, il ajoute. On lui a demandé, vous avez aussi développé un don d'empathie. Il dit, bien que j'ai toujours eu de l'empathie, ce phénomène s'est largement intensifié depuis mon accident. Mon don est intimement connecté à l'intuition, car en plus de la musique, je peux maintenant me connecter énergétiquement avec les gens. Cela se traduit différemment en fonction des personnes, mais je sens une connexion avec chacun. C'est comme si j'arrivais à ressentir physiquement ce que les autres ressentent, mais avec une compassion qui me dépasse. J'ai une empathie particulière pour ceux qui souffrent comme les sans-abri. J'ai aussi une facilité à communiquer avec les génies musicaux autistes, car nous communiquons grâce au langage universel, la musique, et ils me font confiance. On me dit d'ailleurs que j'ai une énergie particulière et cela m'intrigue. En dehors de mon don musical, je me considère comme une personne ordinaire. Madame Héloïse Lebrun lui demande par la suite « Comment vivez-vous cette nouvelle vie? » Derek nous dit « Au départ, je me suis mise en retrait pendant plus d'un an à pratiquer la pêche à la mouche, quotidiennement, le temps d'apprivoiser mes nouvelles capacités. Il m'a fallu du temps pour m'adapter à ce niveau de conscience décuplé. Je suis le seul cas au monde de savant musical acquis sur moins de 100 savants acquis qui sont encore en vie et qui souvent sont autistes. On lui demande y a-t-il des effets secondaires. Il nous dit ce n'est pas facile tous les jours et j'ai souvent des migraines violentes ainsi qu'une grande sensibilité au son et à la lumière. En règle générale, il faut que je fasse attention quand je suis à l'extérieur. Cette surstimulation de mon cerveau peut m'épuiser. J'ai appris à le gérer, à écouter mon corps et à me reposer quand j'en ressens le besoin. J'évite de prendre des médicaments pour ne pas endormir mes capacités. Finalement, on lui demande « Quelle est votre mission dans la vie? » Derek nous dit « Après mon accident, j'ai vraiment senti que je devais partager ce don que j'avais reçu. » Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et les gens pourront poursuivre la lecture. On va donner l'adresse
on
Internet.
On va mettre ça sur notre site web dans la section « Mentionner Folie douce » sur le site antenne.qc.ca. Le syndrome du savant acquis. Merci, Pierre.
Sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci, merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient, sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir.
C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Avant de terminer ce rendez-vous, on va faire la nomenclature, comme à chaque semaine, Pierre, des chansons qu'on écoutait à l'émission.
Oui.
Alors, la première, Cowboy Gangster Politician.
Oui, de Goldie Boutillier.
On a entendu Animaux Fragiles.
De Icar et Zaz.
Dans la deuxième partie de l'émission, Promets Toujours.
De Ludovic Bourgeois.
Et à l'instant, Nous étions des humains.
De Mickey 3D.
Merci pour ce choix musical ainsi que pour ton travail en régie, comme à chaque semaine.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci également pour ton sujet, Alex. Espresso et l'espresso allongé, le syndrome du savant acquis. C'était très intéressant.
C'est vraiment spécial.
Très, très, très étonnant même. Merci beaucoup pour ça. Nos invités en début d'émission, Chad Chouinard et Tanel Duc, nous ont parlé de la contribution de la paire aidante sur le retour à la vie active, comment c'est important encore plus ces jours-ci. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a apporté son sujet, Quand le psychique devient physique. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.